Votre temps est infini. Les derniers secrets. Les astuces sont comme votre temps. Lorsque vous pensez ne plus en avoir, il y en a encore. Je ne pouvais aborder avec vous ces dernières qu'une fois bien comprise ma vision du temps infini. Elles n'en sont pas moins importantes et vont au contraire compléter la vision de votre propre temps. Pourquoi 10% suffisent ? Voici une théorie intéressante que j'ai toujours appliquée inconsciemment. Je ne l'ai conscientisée qu'au contact de mon entourage qui attendait toujours d'être complètement prêt pour entamer quelque chose de nouveau. Devinez ce qui se passe ensuite. Eh oui, il ne commence jamais. Lorsque vous entamez un nouveau projet, personnel comme professionnel, vous commencez instantanément à vous poser des questions sur comment et pourquoi. Vous avez des craintes et vous ne voulez décevoir ni les autres ni vous-même. Tout ceci est un frein considérable qui empêche la mise en mouvement. À partir du moment où j'ai 5 à 10% des réponses aux questions que je me pose, je me mets en action, en mouvement. Je trouverai les 90% de réponses manquantes sur mon trajet. La mise en action est impérative et les réponses viendront par la suite, par votre expérience, vos erreurs, vos rencontres, etc. Quoi que vous souhaitiez entamer, n'attendez jamais. Il va de soi que ce conseil ne fonctionne que si vous êtes ensuite proactif, dans l'action, dans la démarche. Apprenez toute votre vie. Voici un autre concept dont le gain de temps ne va pas vous sauter aux yeux tout de suite. L'apprentissage continue. Le savoir est une âme redoutable qui se dissout de manière transversale dans toute votre vie, traversant sans barrière toutes les parties de votre vie personnelle et de votre vie professionnelle. Le savoir accroît également votre zone de confort. Plus vous apprenez, plus vous devenez redoutable dans votre manière de réfléchir. Apprendre en permanence nécessite donc de lire régulièrement sur tous les sujets. De ce côté-là, je n'ai pas d'inquiétude pour vous puisque vous avez écouté ce livre audio. Vous êtes déjà dans cette démarche. Je vous recommande néanmoins de vous astreindre à une lecture hors fiction quasi quotidienne d'au moins 30 minutes. Il y a beaucoup de périodes de non-temps où vous pouvez le faire sans devoir dédier un créneau spécifique à cela. Vous devez aussi aiguiser votre curiosité à son paroxysme. Si vous rencontrez quelqu'un de passionnant qui maîtrise un sujet dont vous n'êtes pas spécialiste, prenez le temps de l'écouter. Même si le sujet ne vous passionne pas a priori, les connexions qui en découlent sont inestimables. En écoutant ce livre audio, vous avez peut-être remarqué à quel point j'ai résolu mes problématiques d'organisation, de temps, de décision et de procrastination en observant et en apprenant via des personnes et des domaines qui n'étaient pas pleinement dans mes centres d'intérêt. Vous pouvez également vous former régulièrement sur des sujets que vous souhaitez approfondir. Soit lors d'une conférence ou d'une formation physique, j'entends par là en dehors d'Internet. C'est la meilleure option car vous allez vous enrichir de ce que donnent les personnes présentes, pouvoir poser des questions, approfondir. Soit en autodidacte, en créant votre propre formation. En 2015, dans l'incapacité de trouver une période pour aller en formation, j'ai dû apprendre le montage vidéo par moi-même juste avant de commencer mon grand défi de réaliser une vidéo par jour pendant une année. Pour cela, j'ai acheté 3 livres sur le sujet et sur mon logiciel de montage, après avoir pris soin de feuilleter longuement tous les ouvrages disponibles dans ma librairie. Et je me suis lancé dans des projets de montage fictifs pour alterner théorie et pratique. Pas aussi rapide qu'une formation sur le terrain, mais en adéquation avec ma logique, 1 vaut mieux que 0. J'ai ensuite complété mes besoins en consultant des tutoriels spécifiques sur Internet lorsque je devais résoudre une problématique. Soit en écoutant des podcasts et des livres audio. Il en existe sur tous les sujets et ils peuvent vous accompagner dans tous les moments de votre journée, sur un déplacement, une activité sportive, durant la réalisation de tâches ne demandant pas de réflexion intense, etc. Pour l'anecdote, j'ai appris énormément sur la biodiversité en montant mes meubles lors de mon dernier déménagement. Et je n'ai pas vu le temps passer. La théorie de l'hydre. J'ai la particularité de vite me lasser de ce qui au départ me stimule. À bien y regarder, c'est très frustrant car j'aime la découverte, le challenge et la nouveauté. Nous sommes tous un peu faits de ce travers. Dans ma vie personnelle, ce fonctionnement a peu d'impact. Mais dans ma vie professionnelle, cela devient vite contre-productif, surtout lorsqu'on est entrepreneur ou entrepreneuse. Pour transformer ce problème en avantage, je me suis imaginé que ma vie professionnelle était une hydre, comme celle qu'Hercule a vaincue lors de ses 12 travaux. Il fut d'ailleurs aidé de Iolaos. Vous savez maintenant que déléguer est primordial. Pour l'anecdote, Eurysthée a considéré que l'épreuve n'était pas régulière et qu'elle ne comptait pas. À sa décharge, elle n'avait pas encore écouté ce livre audio. Mon hydre virtuelle, que je tiens à jour dans mon bugeot, est composée de plusieurs têtes. Chacune représente l'une de mes activités en place, naissante ou en projet. La taille de chaque tête dépend de l'importance qu'elle prend dans ma vie professionnelle. Néanmoins, les têtes sont gourmandes. Elles se nourrissent de ressources financières et surtout d'une potion composée de temps et d'énergie humaine. J'ai également noté deux gros sacs de nourriture contenant pour l'un les ressources financières à disposition et pour l'autre le temps humain disponible, le mien et celui des personnes qui travaillent avec moi. Chaque tête consomme des ressources, mais en génère également. Elles produisent des moyens financiers et d'autres richesses inhérentes à chaque projet. De la crédibilité, de la joie, de la passion, de la reconnaissance de ma marque, de l'acquisition, etc. Une fois par mois, je prends le temps de m'occuper de la bête. J'analyse d'abord les têtes les plus grosses. Que génèrent-elles? Que consomment-elles? Est-ce que je peux réduire leur régime sans affecter ce qu'elles produisent? Puis-je au contraire améliorer ce qu'elles génèrent en augmentant certaines de leurs ressources? Je m'attaque ensuite à faire le point sur les plus petites têtes. Sont-elles dans un développement normal? Certaines ne sont-elles pas des gouffres de consommation alors qu'elles ne génèrent pas ou peu? Ai-je quelques têtes cachées par d'autres qui ne sont que des bouches à nourrir? Une fois ce point réalisé, je me saisis, tel Hercule, de mon épée et d'un bout de bois enflammé. Je commence par prendre la décision de décapiter toutes les têtes qui consomment sans générer ni revenus, ni joie, ni passion. Aussi radicalement que ça. Et de ma main droite, je cautérise tout de suite la plaie avec le bâton enflammé. Cette image m'aide à ne pas perdre de temps sur des questions d'ego ou d'espoir futile. Si ça ne marche pas, que cela prend du temps ou de l'argent et que la passion n'est pas présente, arrêtez. Pourquoi vouloir maintenir l'une de ces têtes si ce n'est par ego ou espoir fou? Stopper une activité inutile à temps n'est pas un échec, c'est une réussite que vous devez célébrer. Dans ce cas, je note ensuite les ressources qui retournent dans leur sac de nourriture respectif, puis je m'attelle au dernier point. Ai-je envie, ou besoin, de faire pousser de nouvelles têtes? Si oui, je lance ces nouveaux projets. Ai-je envie de nourrir davantage les grosses têtes suivant la première analyse que j'ai réalisée quelques paragraphes plus haut? Si oui, je place des ressources au bon endroit. Et enfin, je vérifie que les sacs de nourriture ne sont pas vides. On ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. L'imaginaire autour de cette hydre aide à prendre du recul sur ce que vous faites en vous dissociant avec des filtres qui sont les ressources financières, le temps disponible et la joie procurée. Mon hydre est une image simple mais réaliste, une véritable synthèse qui me permet de prendre des décisions factuelles, de savoir où j'en suis et de le faire de manière amusante. Le secret de la réussite. J'entends par réussite la réalisation d'un objectif. La première fois que j'ai découvert ce principe, c'était lors d'un déjeuner avec un auteur dont je respecte autant l'œuvre que la personnalité, Bernard Werber. Il me dit alors que pour réussir quelque chose, il fallait que deux des trois ingrédients majeurs soient réunis. Les ingrédients sont le travail, le talent, la chance. Voyons-les en détail. La chance. Elle ne dépend pas de vous. Elle peut se matérialiser en une rencontre, une découverte, une idée, etc. Quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas décider de la faire apparaître ni quand la faire venir. Le talent. C'est une notion abstraite. Vous n'aurez pas besoin des mêmes talents pour réussir des choses différentes. Jacques Brel disait que « Le talent, c'est d'avoir le goût de faire quelque chose, l'envie de faire quelque chose. » Pour notre analyse, le talent sera simplement d'avoir une facilité innée à faire quelque chose. Et là encore, cela ne dépend pas de vous. Le travail. Je définis la composition du travail de la sorte, un mélange de temps consacré et d'énergie dépensée. Le seul ingrédient où vous pouvez agir. Qu'il s'agisse d'éléments de votre métier, de votre vie personnelle ou de votre développement personnel, c'est vous qui décidez du travail que vous allez fournir. Selon Bernard, donc, il faudrait avoir au mieux les trois ingrédients pour très bien réussir quelque chose. Sinon, il faudrait au moins une base de talent ou de chance, puis fournir du travail pour pouvoir simplement réussir. Ce concept me fut très inspirant. J'ai presque pu entendre un déclic dans mon esprit. Puisque je ne me considère pas comme ayant un talent particulier et comme je ne compterai jamais sur la chance, comment exploiter le seul ingrédient que je peux maîtriser? Simplement en le stimulant plus. Pas deux ou trois fois plus, mais 100 fois plus. Malheureusement, je ne suis pas détenteur d'une machine à cloner, mais je peux fabriquer du temps. Avec toute la méthode que je vous livre ici, j'ai pu obtenir un temps infini dans tous les domaines. Je vous le disais en première partie, le travail ne paie pas toujours, mais la masse de travail paie toujours un minimum. Je sais maintenant qu'à chaque fois que je fournis du travail en masse, qu'importe la chance, qu'importe le talent, il y aura toujours un minimum de résultats positifs. Et comme 1 vaut mieux que 0, vous m'avez compris. Comment créer un 32e jour par mois? Je ne vous promets pas de figer le temps. Vous avez déjà créé assez de temps neuf depuis que vous avez commencé à écouter ce livre audio. Plus serait de la gourmandise. La 32e journée est un concept que j'ai mis au point et qui me fait gagner du temps, tout en prenant du temps, de manière très agréable. À ce jour, toutes les personnes que j'ai initiées ont maintenu ce 32e jour et m'en parlent régulièrement. Vous savez comment gagner des heures en plus dans vos journées. Vous savez optimiser votre temps et comprendre comment il fonctionne. Vous donner des objectifs, être concentré, etc. Mais que faire des petits riens de la vie? Je parle des « il faudrait que », « il serait bien de », « pourquoi ne pas faire », « à l'occasion je commanderai ce » et tous leurs dérivés. Ce sont des petites idées, des mini-pistes à explorer, des envies, des petits achats non urgents, un SMS ou une lettre envoyée à quelqu'un, ces petits riens qui nous traversent l'esprit régulièrement et que l'on oublie par manque de priorité ou de temps dédié. Je vous propose de détourner le principe de la boîte à idées. Dédiez une petite boîte à ce projet. À côté, mettez un tas de post-it avec un crayon. C'est la première étape de ce 32e jour. À partir de maintenant, à chaque fois qu'un de ces petits riens vous traverse l'esprit, notez-le immédiatement sur un post-it ou sur votre bujo et glissez-le dans la boîte. Étape suivante. Vous devez réserver une demi-journée par mois pour ce qui va suivre. Ces demi-journées doivent être séparées d'au minimum 25 jours pour avoir du sens. Personnellement, c'est la dernière demi-journée du mois, peu importe quel jour de la semaine tombe la dernière journée du mois. Je considère donc que le mois s'arrête à 12h30 le dernier jour. Avant le premier du mois suivant, existe donc le merveilleux 32e jour. Cette demi-journée n'est faite que de plaisir. Vous avez libéré votre agenda, n'avez aucune contrainte personnelle ou professionnelle, ce non-temps est dédié à votre boîte. Vous l'ouvrez et prenez un post-it dedans que vous allez résoudre. C'est une idée d'achat à faire? Partez faire les magasins ou cherchez sur Internet ce que vous vouliez jusqu'à temps de l'acheter. Ne prenez pas d'autres post-it tant que vous n'êtes pas allé au bout. Et enchaînez ainsi ces petits riens. Si c'est un début d'idée que vous vouliez travailler un jour, sans pression, eh bien sachez que ce jour est arrivé. Parfois, vous aurez le temps de gérer des dizaines de post-it, vidant peut-être la boîte. D'autres fois, vous n'en ferez qu'un seul. Mais à chaque fois, je peux vous certifier que vous vivrez ce 32e jour comme de petites vacances qui vont vous ressourcer. N'ayez pas de limite dans vos post-it. Pour vous donner un exemple de ce que je m'autorise, le dernier que j'ai écrit est « Essayez un nouveau jeu d'escape game ». Avec le 32e jour, vous allez vraiment prendre soin de vous.